Catherine Lara, autonome. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Fabienne Bunion du Parti écologiste Genevois et de Marianne Frischnecht du Parti socialiste Genevois. Nous déplorons l'absence de Erika de Berpoli qui du Parti du travail qui devait être des nôtres. Je ne sais pas si elle a perdu son chemin ou si elle a renoncé à cette étape de sa campagne électorale. Alors, nous nous posions la question, parce que ça me semble évident, de dire que pour que les femmes trouvent une place comme élues au sein des divers parlements, en l'occurrence au Parlement fédéral pour ces élections prochaines, eh bien, il faut que les hommes quittent la place qu'ils tiennent, puisqu'il y a un nombre X de représentants et qu'on ne peut pas dépasser ce nombre. Alors, est-ce qu'au sein, déjà, tout d'abord, de vos partis, il s'est trouvé des hommes pour dire « Ok, moi, je laisse ma place à une femme en tant que candidat ».
En ce qui concerne le Parti écologiste, vous savez qu'il n'y a qu'un seul représentant. Donc je crois qu'on ne va pas lui demander tout de suite de faire ce genre de déclaration. Par contre, il a accepté et proposé lui-même qu'une femme soit mise en tête de liste, donc passe avant lui, ce qui pouvait créer dans l'esprit des gens, poser un certain nombre de questions, à savoir pourquoi il était relégué à la deuxième place. Et je crois que ce n'est vraiment pas être relégué à la deuxième place, c'est se dire qu'il faut que la femme qui a été choisie par le parti soit montrée en première place pour dire que c'est une volonté délibérée du parti. Alors quant à dire qu'il laisse sa place, je crois qu'il surtout il souhaite, comme nous tous écologistes, que nous ayons un deuxième siège.
Quand je disais est-ce qu'un homme a laissé sa place, c'était pas forcément en tant que déjà élu, mais y compris en tant que candidat. Pour avoir des femmes sur les listes, il fallait. On n'allonge pas non plus démesurément les listes de candidats, donc il faut aussi, j'imagine.
Oui, alors à ce moment-là, les hommes ont tout à fait accepté le principe de l'alternance et le principe qu'il y ait donc une femme première et une femme troisième. Donc le premier homme derrière Laurent Rebaud devenait forcément quatrième. Donc, je crois qu'ils étaient tout à fait d'accord avec cette idée-là.
La question est un peu différente au niveau du Parti Socialiste, puisque de nouveau, on est face à deux listes, n'est-ce pas? Donc ça nous permettait effectivement d'avoir quasiment autant de candidats hommes que, en tout cas, les hommes le souhaitaient, et autant de candidatures féminines également. Mais ça montre quand même, puisque une liste familia, ça montre quand même que aucun homme, spontanément, je crois, à l'heure actuelle, n'est vraiment d'accord de céder une place, d'autant plus si cette place est quasiment assurée. Par contre, devant une autre alternative, d'avoir deux listes, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un sacrifice entre guillemets, puisqu'au fond là, le problème qu'a posé Christiane Brunner il y a 4 ans, c'est-à-dire que 200 voix de moins, elle n'a pas passé, le problème là serait complètement différent, puisqu'elle pourrait même avoir 2000 voix de moins. À partir du moment où c'est un suffrage de liste, elle pourrait parfaitement passer avant un homme qui en a plus, mais qui sort en deuxième ou en troisième position. Donc en fait, cet accord subséquent à l'existence d'une liste femme montre quand même qu'il y a eu volonté plus grande, au fond, de laisser la place aux femmes, même si spontanément et de prime abord, eh bien, c'est extrêmement difficile, ma femme. Je me mets à la place éventuellement des hommes. Je crois qu'effectivement, on n'a pas encore su leur démontrer un intérêt réel à nous céder leur place et à prendre les nôtres.
Est-ce que c'est forcément nous, comme femmes, qui devrons leur faire comprendre ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ils peuvent aussi réaliser que c'est important que les femmes participent aux prises de décision?
Écoutez, moi, depuis le temps que ça dure, je dis que... Ils auraient déjà dû le réaliser, parce qu'au fond, c'est vrai qu'ils nous voient à la limite assez bien dans notre peau, mais c'est vrai aussi qu'on s'est fait en partie avoir, parce que bon, maintenant, on arrive à faire beaucoup de choses à la fois, sans pour autant que l'homme ait tout à fait suivi notre cheminement. Donc moi, je pars du principe maintenant, après expérience, qu'au fond, il faudrait titiller leur intérêt, non pas par le balai et la serpillière. Je crois que c'est vrai que si j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est peut-être pas la première chose sur laquelle je me précipiterais. Mais alors, d'un côté effectivement plus éducatif, familial, l'importance par rapport aux enfants, qualité de vie, ce genre d'intérêt-là. Je crois qu'il faut effectivement titiller ces intérêts-là chez les hommes pour qu'ils comprennent.
C'est bien que vous reparliez de ça, parce que j'avais envie que nous revenions un tout petit peu aux difficultés qui font que peu de femmes se présentent comme à des responsabilités politiques. Parce que, bien sûr, un certain nombre de changements dans votre vie, comme vous l'avez toutes les deux décrites, sont pas toujours évidents à assumer. Bon, il y a ce rôle politique, ce rôle public. Désormais, on s'appartient plus tout à fait à soi-même. On est censé parler au nom d'eux. On est censé être là à chaque fois qu'on peut, se montrer Enfin, du moins, y a-t-il une certaine façon de jouer un rôle politique? Alors, peut-être il faut discuter si les femmes sont prêtes à faire la même chose ou peut-être elles vont faire différemment que les hommes. Et puis, il y a toutes les transformations et tous les bouleversements au sein de votre famille, parce qu'on n'a jamais vu un homme se poser la question de se dire « Mon Dieu, je ne peux pas me présenter aux élections parce que qui va s'occuper de mes enfants hein ?» Ça, je ne crois pas que, très honnêtement, quelqu'un pourrait, un homme oserait affirmer cela. Et bon, je fais une petite anecdote, mais quand je téléphonais à Marianne Frischknecht, eh bien, je pose la question à son mari, quand pourrais-je trouver Marianne? Et il me dit, bonne question, allons réfléchir à nous deux. Visiblement.
J'ai pourtant mon agenda sur le frigo.
Et après coup, je disais, mais en fait, c'est vous que je devrais interviewer. C'est vrai que ce serait une bonne occasion de savoir comment les hommes réagissent au fait que leurs femmes se lancent dans des grandes responsabilités politiques et que tout à coup, elles ne sont plus beaucoup à la maison. Alors, aussi, anecdote, il m'a dit, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis déjà pas capable de vous répondre la première question et vous dire où elle est. Alors, ça ne va déjà pas. Mais dans les faits, est-ce que vous avez l'impression que ça va réellement bouleverser votre vie de famille et que c'est un tournant, vraiment une page très importante que vous devez accepter de passer en vous proposant comme candidate avec l'espoir d'être élue?
Écoutez, moi c'est vrai que ça fait maintenant 4 ans donc, que j'assume la direction de ce bureau d'égalité et c'est vrai que j'avais dit d'entrée que je me donnerais à fond pour ce travail, étant donné qu'il fallait tout créer, hein, il fallait mettre sur pied, il fallait que ça roule. Donc en fait ma famille est déjà habituée à mes absences, à mes voyages à l'étranger, l'organisation roule et moi j'ai toujours dit aussi que la seule façon vraiment à ce que notre conjoint participe pleinement, c'est au fond d'être aussi et autant occupé que lui. Parce que là, il n'y a pas justement ce piège du temps partiel où de toute façon, on a le temps de faire autre chose que notre travail professionnel. Donc, on assume le tout. Alors, au fond, ça changera simplement par le fait qu'il y aura des sessions régulières. Mais au niveau de l'organisation, au niveau de l'habitude, au niveau des absences, je crois que mes enfants ont perdu un peu de leur mère, mais alors ils ont gagné très nettement un père.
Pour moi, c'est un petit peu différent quand même. Je trouve que c'est vraiment un bouleversement parce que bon, je suis déjà une femme suroccupée, pas beaucoup à la maison, très prise quand je suis à la maison, mais il y aura quand même ce phénomène de cession qui fait que la maman est hors de la maison 4 jours par semaine, 3 semaines de suite. Et ça, c'est en discussion avec mes enfants. C'est pas très facile, c'est pas très facile à accepter. Et pour moi, je trouve que ce sera quelque chose de difficile. Vous racontiez une anecdote tout à l'heure, je peux vous en raconter une autre. J'étais interviewée l'autre jour par un journal. J'avais une main contre une porte, les deux pieds contre l'autre, deux enfants qui hurlaient dans une pièce et le troisième qui voulait m'arracher le téléphone. Et puis voilà, je crois qu'aucun homme n'a ce genre de problème parce qu'il s'enferme dans son bureau pour répondre aux interviews. Et je trouve que c'est très très dur, en tout cas la campagne est très dure parce que je suis très demandée au téléphone et que mes enfants ont beaucoup de peine à supporter ça. Alors je trouve que la différence entre un homme et une femme, c'est vrai qu'il y a cette histoire de disponibilité. Moi je trouve que ce sera un bouleversement dans ma vie, mais maintenant que je l'ai accepté, je pense aussi que je peux le communiquer à mes enfants et puis que d'avoir une mère qui se réalise, c'est peut-être mieux que d'avoir une mère mal dans sa peau à la maison.
Parce que vous n'allez quand même pas vivre, si vous êtes élue, 4 ans avec la culpabilité de ne pas vous occuper suffisamment de vos enfants quand même. Donc
la culpabilité, moi j'ai déjà dû la mettre dans le tiroir.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que les femmes font de la politique de façon différente des hommes? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous sentez capable de jouer la femme publique qui doit briller, qui doit faire savoir qu'elle est là, qui doit justement qu'on n'oublie pas qu'il faut s'adresser à elle, etc., comme beaucoup d'hommes font? Est-ce que vous avez, parce qu'en principe, être réservée et discrète en politique, ça paye pas beaucoup, hein, en général, on dit. Dans la façon traditionnelle de faire de la politique. On dit aussi qu'être sérieux et compétent, bon, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Il y a peut-être d'autres moyens de se faire passer ses idées en matière de politique. Alors, que pensez-vous de ces façons de mener la politique que on a facilement tendance à retrouver, hélas, même dans notre Parlement suisse? Et est-ce que vous pensez que les femmes, elles, présentes dans la politique, celles qui y ont été et puis celles qui vont... entrer, vont peut-être pratiquer la politique différemment. On a eu, hélas, un gros échec sur les bras. C'est Madame Kopp, quand même, qui ne nous a pas servi beaucoup. Vous vous sentez un petit peu à porter ce fardeau et essayer de montrer que vous allez faire autrement?
Moi, je pense que le fardeau de Madame Kopp, on le porte. Alors ça, c'est indéniable. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle conseillère fédérale. Enfin, moi, je le ressens très fort. Malheureusement, si c'était un homme qui s'était comporté de la même façon, ce serait déjà très certainement oublié. Elle avait un rôle très important pour nous toutes femmes. Elle a été incapable de le remplir. C'est dommage parce que ça va nous porter préjudice pendant de longues années. Maintenant, comment être? Est-ce qu'il faut changer? Moi, avec le Grand Conseil, et puis notamment depuis une année, je suis au bureau du Grand Conseil, donc je fais énormément de représentations, des choses qui ne me passionnaient pas forcément, mais on apprend ces choses-là, on fait des compromis. Ça ne me gêne pas, finalement, d'avoir ce rôle, de devoir quelquefois paraître un tout petit peu différente de ce qu'on est réellement. Je crois que ce n'est pas pour autant qu'on cache sa sensibilité. Et vous posiez la question de savoir si les femmes sont différentes en politique, ça, pour moi, c'est indéniable. Elles ont une sensibilité différente, elles prennent les problèmes sous un autre angle et je crois, je le vois dans la campagne, rien que le fait de ces associations de femmes de tous les partis, je crois que c'est quelque chose qui ne pourrait pas être réalisable chez les hommes. Je ne crois pas que les hommes de tous les partis pourraient faire une campagne commune, alors qu'on a vu avec l'Association des droits de la femme, il est possible à une femme radicale d'être assise à côté d'une femme écologiste ou d'une femme socialiste et d'une femme libérale sans avoir envie immédiatement de se lancer des sympathies les unes aux autres. Donc ça me semble typiquement féminin.
Marianne Frischnesch, que pensez-vous de la question?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation concernant Mme Kopp. Moi, il me semble, en tout cas d'après les sondages d'opinion, que c'est une affaire qui est encore relativement ancienne, donc un petit peu oubliée. Elle ne nous fera pas vraiment d'ombre. Et je dirais même au contraire, parce que je crois qu'il y a un ras-le-bol de la politique, politica, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les sondages sont parus dans la presse. C'est vrai que le peuple a de plus en plus une méfiance par rapport à ces autorités gouvernementales ou parlementaires. Et au fond, un de nos slogans, c'est aussi « changeons la politique ». Et je pense que si les femmes ont une chance, cette année en particulier, compte tenu effectivement de ce qui s'est passé aussi avant, notamment cette grande manifestation du 14 juin, c'est peut-être par ce slogan de « changeons la politique ». Peut-être que les électeurs et les électrices se diront « on va essayer ». Autre chose, et peut-être qu'on arrivera à trouver autre chose au bout. C'est peut-être notre chance là.
Il y a quelques années, 4 ans, je commençais à faire de la radio et une de mes premières interviews, c'était Amelia Christina qui se présentait au Conseil des États. Et je me souviens que beaucoup de journaux évoquaient Amelia Christina en disant « Ah, c'est une femme magnifique, très émotive, oh, elle pleure de temps en temps au Parlement, c'est fantastique. » Enfin, il faut lui reconnaître ça, la sensibilité féminine. Est-ce que vous avez l'impression que les hommes vont être capables d'interpréter autrement l'idée de sensibilité féminine que par la femme qui pleure ou qui rigole, enfin bref, qui s'enthousiasme comme plutôt une femme du Sud que Madame Christina pouvait exprimer sa façon de voir les choses?
Ah, moi, je crois qu'il y a maintenant une réputation, je dirais, de sérieux et de compétence qui n'a plus rien à voir avec la sensibilité. Moi, je crois qu'on peut avoir un côté émotionnel qui est important et qui est intéressant. Mais s'il est allié en même temps à une réputation de sérieux et de compétence, de connaissance des dossiers et surtout de présence au niveau du Parlement, eh bien, on devrait effectivement ne plus avoir au fond ces images très caricaturales que Madame Kopp avait d'un certain côté. Elle était aussi la caricature au fond de la femme mec qu'on a connue durant les dernières décennies, parce qu'au fond une femme pour arriver de la génération Madame Kopp devait avoir ses côtés effectivement un peu homme, se comporter au fond de la même manière que les hommes. Il y a peut-être eu une autre caricature de la femme qui était justement féminine, avant tout sensible, émotionnelle. Et puis moi, je crois quand même qu'on a maintenant, vis-à-vis de nous, une génération de femmes, au fond, qui peut-être allient les deux choses, qui, tout en restant femmes et féminines, eh bien, ont aussi ces côtés de sérieux, de compétences et de présence. Et le tout fait un excellent mélange.
Si je vous posais cette question, c'est parce que, bien évidemment, il y a souvent cette phrase qui sort « ces femmes sont des alibis de leur parti ». On pense à toutes ces candidates qu'on présente uniquement pour dire qu'on a présenté des femmes. Et ça me donne peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi j'avais invité seulement des femmes de 3 partis et non pas les candidates qui pourraient se présenter dans d'autres partis. Eh bien, c'est qu'entre autres, nous sommes, parce que je ne crois pas que c'est que je, nous sommes à une femme très partisane de soutenir des femmes qui s'engage dans la politique, mais pas n'importe quelle femme, effectivement. Je crois qu'il ne suffit pas d'être femme pour que ce soit juste qu'on soit élu au Parlement. Il faut qu'on soit femme et qu'on défende un certain nombre d'idées dans lesquelles les femmes puissent se reconnaître. Et je crois que peu de femmes se sont reconnues dans ce qu'a défendu Mme Kopp, même si celle-ci, à mon micro notamment, prétendait avoir défendu largement les femmes pendant tout le temps qu'elle a passé au Conseil fédéral. Donc, je crois qu'on peut peut-être revenir à ça tout à l'heure, savoir vraiment comment vous, maintenant, alors, qui allez peut-être être élu au Conseil national, vous allez défendre un certain nombre de dossiers, pas forcément que de femmes, comme vous disiez, Marianne Frischknecht. Mais qu'est-ce que vous allez défendre? Vous n'êtes pas que des alibis pour vos partis, histoire de dire on a mis des femmes sur nos listes, mais vous allez réellement proposer quelque chose.
Je voulais juste vous dire, tout à l'heure, c'est moi qui ai parlé de sensibilité. Peut-être ce mot qui vous a fait bondir, qui vous a fait penser à des pleurs. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre sensibilité et sensiblerie. Pour moi, la sensibilité, c'est vraiment une différence, une intuition féminine, une différence entre la femme et l'homme, mais ça n'a rien à voir. Je crois que les femmes ne pleurent pas, ne rient pas pour un oui ou pour un non. En tout cas, je côtoie un tas de femmes au Grand Conseil. Je ne les vois ni rire ni pleurer.
Je crois que Mme Amélia Christina non plus d'ailleurs.
Il n'est plus de pouvoir. C'est un chef qui se meurt. La reine des abeilles a rendu l'âme ce soir. Un leader a craqué, le mal à l'aile dans le plâtre, le pantalon se solde, la culotte se brade. Il n'est plus de pouvoir, ce patron est le dernier, on l'a fait empailler. Au rayon des insectes, tous les papas sont quoi? Toutes les mamans sont cuites. Les maîtres n'ont plus de maîtrise. Le père perd ses images. Le pape s'en toque. L'attaché s'encaisse, le président au banc. Au banc, les accusés de corruptes, des lattes, de hiérarches, de réprés, de magots, de compros, de spécu, de blocas, de nations, de patriots. Levez-vous et rendez-vous, galons. Il n'est plus de pouvoir. Les uniformes à la casserole, les casquettes au feu, la caporale au milieu. Il n'est plus de pouvoir, les ordres aux ordures, les décrets à la poubelle, les procès-verbaux dans le caniveau. Soulève sur son passage ce qui peut encore s'envoler, qu'elle en renverse tous les murs, ils finiront bien par s'écrouler. Que sa violence réveille les corps finis, les corps contraints, qu'on ne tienne plus debout, que l'on soit obligé de courir, courir avec le vent aussi loin que la terre porte, crier, hurler que le vent. Sur vos années passées, il n'est plus de pouvoir. Vous êtes à vous abandonnés. Vous vous devez à l'abandon. Vous pouvez vous abandonner à vous.
Vous aurez reconnu, je pense, Yvette Terolla qui abordait les différentes chutes et pertes de pouvoir des hommes dans certaines situations. Alors, revenons à notre discussion avec Marianne Frischnesch du Parti Socialiste Genevois et Fabienne Bunion du Parti Écologiste Genevois. Madame Erika de Berne n'est toujours pas arrivée. Et alors, c'est vrai que nous autres femmes qui avons lutté, je crois, depuis longtemps pour défendre la cause des femmes, en tout cas, on est assez nombreuses à trouver étrange qu'on veuille à tout prix envoyer à des charges politiques des femmes qui, soit ne s'en sentent pas les moyens, parce que malgré tout, c'est vrai que c'est une lourde charge et c'est parfois des dossiers assez compliqués quand même à aborder, il faut le reconnaître, soit n'ont rien à dire en tant que femmes. Et c'est vrai que, en tout cas, je crois bon nombre de femmes ne seraient pas prêtes à élire une femme simplement parce que c'est une femme. Et ça me fait revenir à cette initiative qui a été lancée en Suisse allemande, je crois, puis ensuite signée en Suisse romande aussi, qui demandait donc qu'il y ait représenté au Parlement 50% de femmes, 50% d'hommes, et que ce soit automatiquement appliqué. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative, vous qui êtes à la veille de participer à ces votations et peut-être d'être élue ?
Alors, en ce qui concerne le Parti écologiste suisse, il avait soutenu cette initiative. Je pense que vous pensez parler de l'initiative Conseil national 2000, voilà, qui exigeait des quotas pour le Conseil national. Dans le problème général des quotas, moi je suis d'accord avec cette idée pour autant que ça soit une affaire de transition. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un tel manque de femmes partout qu'on n'a pas le choix. Si on veut obtenir une égale représentation, il faut imposer des quotas dans un certain nombre d'endroits. Mais j'aimerais pas que ça soit une règle qui perdure, parce que je pense que pour certaines professions ou charges, un homme sera mieux qu'une femme, ou une femme sera mieux qu'un homme, deux femmes seront mieux que deux hommes, etc. Et je ne crois pas qu'on peut mettre ce système de quotas de façon perpétuelle. Je pense que vraiment c'est transitoire, mais actuellement on n'a pas vraiment le choix. Il y a un manque partout. Et puis moi je soutiens cette idée, j'ai soutenu aussi l'initiative Conseil National 2000 parce que ça représentait un vide, une injustice.
C'est vrai que dans les milieux féministes, on est très partagé par rapport à ce problème-là, parce que justement, on ne sait jamais qui sont les femmes qui finalement arrivent par ce biais-là. Bien que j'aime pas tout à fait l'idée non plus de penser a priori qu'une femme est moins compétente qu'un homme. Hein. On ne se pose pas de problème au niveau des compétences. On a vécu toute l'histoire des quotas à l'université, par exemple, où en demandant un certain quota de femmes professeurs, la première remarque qui nous était faite de l'autre côté, c'était « mais nous allons dévaluer, si vous voulez, le quotient intellectuel général du professeur universitaire ». Donc on part avec cet a priorisme, moi, qui me hérisse depuis longtemps, de cette moins-value, au fond, du féminin. Et je dois dire, j'étais à une séance du Conseil de l'Europe où les 23 pays du Conseil de l'Europe étaient représentés et dont le sujet était « nous en avons assez de cette demi-démocratie ». Et pour une fois, les 23 pays du Conseil de l'Europe étaient d'accord. Et c'est vrai qu'à l'unanimité, au fond, au niveau des recommandations de ces 23 pays d'Europe, que ce soit les pays du Nord, que ce soit les pays du Sud, plus ou moins avancées, notamment au niveau de la cause des femmes, eh bien, des quotas, notamment au niveau parlementaire, ont été revendiqués, un quota à 50%. Et ils argumentaient, entre autres, qu'au fond, il fallait à tout prix obtenir le tiers magique, c'est-à-dire au moins un tiers de voix favorable à une chose pour que, effectivement, les problèmes typiquement femmes, au fond, puissent avancer. Et puis, je crois qu'il y a aussi un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que, ça fait 20 ans que les femmes ont le droit de vote. Ça fait 10 ans que l'article constitutionnel a été voté. Et puis finalement, très peu de choses, en tout cas au niveau de la participation aux décisions politiques, n'a réellement avancé. Alors comme dit Madame Bunion, c'est vrai que le quota doit être un moyen, doit rester un moyen pour arriver à quelque chose qui se régularise de lui-même. Mais je crois que le ras-le-bol aidant, la mesure de quota est temporairement absolument nécessaire.
Dans ce sens-là, est-ce que vous pensez que donc les femmes qui vont peut-être se retrouver élues au Conseil national, est-ce qu'elles vont travailler ensemble, peu importe leur appartenance politique ? Nous allons aborder d'ici quelques instants ce que vous allez aller défendre au Conseil national, puisque justement vous défendez l'idée que vous n'êtes pas des femmes alibis, que vous avez quelque chose à aller faire là-bas. Peu importe ce que vous avez envie de défendre, est-ce que vous croyez qu'il existera une solidarité entre les femmes pour imposer leur présence au sein du Conseil national ?
Moi, je donnerais deux exemples. Je dirais à l'heure actuelle, il y a à peu près 15% de femmes. Et c'est, dans ces 15% de femmes, elles appartiennent toutes à un parti. C'est extrêmement difficile de se désolidariser, au fond, de collègues de parti quand on est un nombre aussi faible, au fond, de représentants féminins. Et puis, j'ai vécu la session des femmes à Berne, où là, il y avait effectivement 100% de femmes de tous les partis. Et au fond, on s'est mis assez vite d'accord sur les points essentiels, au fond, à demander, à revendiquer au niveau du Conseil fédéral. Alors, je suis quand même assez persuadée que le jour où nous obtiendrons 35, 40% de femmes au niveau du Parlement, eh bien, il y aura une solidarité peut-être plus grande qui se créera parce que justement, les femmes se sentiront moins isolées. Il faut avoir un sacré courage à l'heure actuelle pour une femme libérale, seule, de tout à coup se désolidariser de son parti. Si il y a beaucoup de femmes qui l'entourent et suffisamment ce tiers magique dont je parlais tout à l'heure, peut-être qu'elle aura plus facilement ce courage-là.
Fabienne Vignot.
Moi, j'en suis malheureusement pas certaine, je l'espère vraiment, mais ma première expérience au Grand Conseil, quand je suis arrivée, c'était de voir une femme libérale qui s'était mise avec les autres pour signer un projet, justement, au moment des quotas sur l'université. Et cette femme libérale qui nous transmettait à chaque membre du Grand Conseil une lettre spécifiant bien qu'elle avait signé ce projet à titre personnel et non pas au nom du groupe libéral. Et ça m'avait beaucoup frappée parce que j'avais trouvé d'abord l'acte de courage de cette femme assez extraordinaire parce que son parti l'avait vraiment mis au banc pendant quelques temps. Et je ne suis pas sûre que des femmes sont prêtes, comme disait Marianne Frischknecht, à sortir de ce carcan de parti. On a la chance peut-être dans les partis écologistes, socialistes ou partis du travail qu'il y ait une plus grande ouverture entre les gens en général. Mais je ne suis pas sûre qu'au niveau du Parlement national, il va y avoir ce rapprochement entre les femmes. Je le souhaite, mais j'en ai aucune garantie actuellement.
Mais je dirais quand même qu'au niveau justement du problème de quotas université, il y a quand même eu signature du projet de loi par ces trois femmes, par cette femme libérale, par les socialistes et par les radicales. Bon, ensuite, qu'on se prononce à titre personnel, c'est une chose, mais enfin, il y a quand même eu l'action solidaire et sur un problème aussi important que le problème du quota.
Oui, parce que finalement, c'est quand même le nombre de voix qui compte pour faire passer un projet. Donc, que ce soit une voix de parti ou une voix, entre guillemets, individuelle, ça ne change pas le problème. La chose est votée.
D'accord, mais c'est quand même difficile pour une femme de dire « je vous annonce que je fais ça en mon nom personnel parce que mon parti ne me suit pas ».
Ça, pour elle, ça ne doit pas être facile, ça c'est sûr.